que ta volonté soit faite. » Matthieu 6, 9, 13. Je voudrais aujourd'hui vous entretenir d'un passage bien connu. Il renferme beaucoup de choses. Lisons d'abord. Jésus dit « Priez ainsi ». Il veut dire « dans cet esprit ». Parce que si tu rabâches, si tu t'imagines qu'en parlant beaucoup, tu te feras mieux écouter, cela ne fonctionne pas. Il s'agit du monde de la pensée du Fils de Dieu et de ses frères et sœurs. C'est nous. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton royaume arrive, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien et pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Mais délivre-nous du mal, car le royaume et la puissance et la gloire sont à toi pour l'éternité. Amen. Avant tout, reprenons quelques notions. Ce « notre » réfère à tous les croyants de tous les temps, Jésus inclus. Père. Jésus fut le premier à employer souvent la notion de Père. Qui, dans l'Ancien Testament, nommait Dieu Père? Personne. Il n'osait pas. Aurait-ce été possible? Certainement. Cela se trouve dans Jérémie 3, 19. En soi, déjà un texte magnifique. Il est écrit que Dieu dit « J'avais pensé que vous m'auriez appelé mon Père ». Que pensez-vous de sa réflexion? Oui, en effet, nous sommes nés de lui. Dieu est esprit. Si Dieu est esprit, et si tu es né de lui, qu'es-tu alors? Dans ce cas, tu es aussi esprit ou spirituel. Nous, nous nous mouvons dans le monde des esprits, le ciel. En effet, il est très important que tu en sois conscient. Car aujourd'hui, je parle au monde naturel. Je regarde le monde visible. La Bible appelle cela la chair. Que ton nom soit sanctifié. Nous en avons déjà parlé. Dépouillé de toutes les propriétés déplacées que l'on a attribuées ou collées au nom de Dieu. Même celles du diable. Par exemple, la maladie et la mort. Dans ce cas-là, on se fait une image très incorrecte de Dieu. Que ton royaume arrive. Nous avons déjà parlé de ce texte par rapport au psaume 139. Le royaume commence comme un embryon dans l'utérus, au sein de la communauté, la femme. Cela s'appelle le Christ en nous. C'est cela que ton royaume arrive. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Cela ne réfère pas au banquet de Noël. Ton pain quotidien est ce qui te nourrit. C'est donc la manne céleste pour toi-même et pour les autres. Oui, dans ce cas, tu peux distribuer ton pain. La manne céleste est donc cette nourriture spirituelle, pas ta quotidienne tranche de pain. Pardonne-nous nos offenses. Comment vais-je pardonner? Se demande Dieu. Fais comme moi, tu lui réponds. Autrement dit, Dieu pardonne comme toi tu le fais. C'est cela qui se trouve écrit. On en a déjà beaucoup parlé. Et maintenant, et c'est de cela qu'il s'agit aujourd'hui, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Sur cette phrase, on a écrit des livres entiers. Je vais essayer de l'expliquer un peu plus. Qui parmi vous se souvient encore de l'emploi du subjonctif? Vous l'employez quand vous dites « que ton royaume arrive », que ta volonté soit faite et que tu sois sanctifié. » Ou dans les expressions telles que « qu'il repose en paix », « que Dieu est son âme ». Le subjonctif traduit souvent un souhait ou un encouragement. En hébreu, on emploie souvent le subjonctif. Cela me donne à réfléchir. Je ne trouve pas ça tellement évident. Il faut y réfléchir à deux fois. Dans le dictionnaire, on explique que le subjonctif sert souvent à exprimer un encouragement. L'encouragement, c'est la notion centrale de mon sermon ce matin. Un encouragement, oui, un désir. De qui ? De la part de Dieu. Tu sais, je voudrais même appeler l'Ancien Testament le livre des désirs, le livre des désirs de Dieu. Et ensuite, nous pouvons appeler la Nouvelle Alliance, le Nouveau Testament, le livre de l'accomplissement. Car Jésus est venu pour accomplir les désirs de Dieu. Qu'en pensez-vous ? Pouvoir accomplir les désirs de Dieu. Il a de si profonds désirs, et cela depuis la fondation du monde. Son plus profond désir est de fréquenter les hommes. Un jour, j'ai demandé à Dieu, « Quel est le sens de ton existence ?» C'était un moment où je l'avais difficile, et je voulais le savoir de lui-même. Et l'Esprit m'a donné trois mots. « Toi, vous, nous. » Qu'en dites-vous ? On peut en parler à l'infini. Il voit d'abord l'homme individuellement, ensuite comme un groupe, les hommes, l'humanité, et finalement, il dit timidement « nous ». Vous avez donc là votre Père et celui qui est le sens de votre existence. Son cœur va toujours vers les hommes. Il se trouve donc écrit « Que ta volonté soit faite ». Quant à cet esprit du Père, on constate qu'au courant des siècles, on a bien manipulé cette notion. Dans le texte grec, « volonté » n'exprime pas une exigence dans le sens de « je veux que tu fasses là ». En effet, on ne se conduit pas de cette façon-là avec ceux qu'on aime. Je n'aime point que l'on manipule la volonté de Dieu. Faire la volonté de Dieu est une expression qui exprime le bon gré, le plaisir de quelque chose qui plaît, quelque chose qui procure de la joie. Connais-tu le texte du livre Apocalypse où il est dit que tout a été créé par sa volonté. Là, tu peux carrément le lire comme « pour ton plaisir ». De cette façon, tu attrapes un autre regard sur le mot « volonté ». Sinon, tu y ressentiras toujours quelque chose de menaçant. Dieu a donc tout créé selon son bon plaisir, et il prend aussi un grand plaisir à tout recréer. Cela procure quelque chose d'agréable à l'homme. Quant à cette déformation de la volonté de Dieu dont je viens de parler, j'entends par là que certaines personnes croient savoir exactement ce que Dieu veut et ce qu'il ne veut pas. On en connaît, non? Par manque d'arguments, ils usurpent la volonté de Dieu en voulant donner plus d'autorité à leurs propres paroles. Mais cela ne convainc pas. Cette manipulation de la volonté de Dieu se réfère à rien du tout. Ou bien, ils ont un certain besoin d'aventure qu'ils transforment en désir d'évangélisation. Ils partent au Yémen ou dans un autre pays, croyant répondre à la volonté de Dieu. Et finalement, c'est pour y vivre l'échec. Car nombreux sont ceux qui reviennent tristes et déçus, ayant cru que c'était la volonté de Dieu. Ces choses sont tellement enchevêtrées. Jésus n'a d'ailleurs jamais été à l'étranger. Il disait « Commencez dans votre propre cercle. C'est là que vous aurez d'ailleurs le plus de résistance. » Mais tout simplement, par manque de conviction et d'arguments, ils revendiquent la volonté de Dieu pour défendre leur cause. Qui connaît encore l'ancien slogan si fréquemment employé au cours de l'histoire? Dieu le veut. Il fit le tour de l'Europe et ainsi naquirent les croisades. Dans les châteaux, les églises et les cathédrales, on rugissait. Dieu le veut. Que de sang cela n'a-t-il pas coûté? Pensez donc aux pratiques affreuses de l'Inquisition. Même des Arabes que j'ai récemment entendus à la télé disaient que le traumatisme des croisades joue encore toujours un rôle dans leur mémoire collective. Finalement, cela revient à dire que les hommes ont une image très fausse et tordue de Dieu. Beaucoup de chrétiens aussi. Il est même question d'une attitude fataliste, car si Dieu veut quelque chose, disent-ils, il ne peut rien y changer, dans le sens que Dieu est si grand que sa volonté advient par-dessus tout. Ayez donc un père pareil. Prenons maintenant le verbe advenir. Que ta volonté advienne. Lisez-le comme « que tes désirs se réalisent ». En grec, le verbe est formé de la racine « gène ». Pensez par exemple au « gène »,« génétique »,« génération » ou bien à « genèse »,« commencement ». Un gène contient les caractéristiques héréditaires. Que penses-tu du « gène » de Dieu ? Et de son gène spirituel, de ses caractéristiques héréditaires, de la semence de Dieu qui les contient toutes. Un autre mot pour semence de Dieu est sa parole que tu reçois. Si tu veux l'exprimer dans un langage plus distingué, tu parleras de conception, car dans ce rapport-ci, l'esprit humain est vu comme féminin et Dieu comme masculin. Tu reçois le gène de Dieu et à partir de là, une histoire commence à se développer, la tienne. Tu as reçu la semence de Dieu et elle se développe en toi. Tu as reçu la semence de Dieu et elle germe en toi. Donc, ce qui est né de l'esprit est spirituel et c'est toi, homme, homme de Dieu. Enfant de Dieu signifie que tu descends de lui, tu fais partie de sa race. D'ailleurs, le mot histoire dans Genèse 2, 4 est une traduction du mot hébreu toledot, qui signifie en fait naissance ou engendrement. Il ne s'agit pas de banales histoires du passé, mais bien de l'engendrement de quelque chose de vivant. Sinon, tu ne parlerais pas en termes de naissance et d'engendrement. Il s'agit de la naissance du ciel et de la terre et de leur développement. Pense un peu au tout petit commencement dans le sein maternel. À présent, l'échographie nous laisse déjà voir quelque chose de ce tout petit début. C'est à s'en émerveiller. Commencer à exister et à se développer comme un être, une personne unique. Ce sont des images qui parlent. C'est cela, créer, faire apparaître la vie. Et recréer, c'est insuffler une nouvelle vie dans une existence ancienne. Redonner vie à l'ancienne création. Car Dieu ne commence pas par une chose nouvelle sur une autre planète. Il ne renie pas sa création. Non, il cherche à nouveau l'homme et commence un processus de recréation. Et cela a commencé avec l'incroyable petite semence en Marie. Donc, Dieu doit bien avoir une grande foi, tellement grande qu'il se met à une recréation totale. Dans Genèse 15, 6, se trouve une expression très ancienne. On la passe facilement. Il est écrit « Abraham eut confiance en Dieu ». Et ce qui vient ensuite ferait mieux d'être traduit par « Dieu considéra que la confiance d'Abraham répondit à ses espérances. Il la lui imputa à justice. » Donc, Abraham fit confiance à Dieu. Et comment Dieu considéra-t-il cela? Il dit « Je suis si heureux que tu me fais confiance, car tu réponds à mes espérances. » Pas par une foi implacable, dure comme du fer, mais parce que tu me fais confiance et que la vie se crée en toi. Et à ce moment vient l'enfant de la promesse, Isaac. C'est beau, non? Dieu a des espérances, des désirs. C'est tellement beau. Dieu éveille le désir en toi. C'est tout de même fantastique qu'il réveille quelque chose en toi. Chacun de nous connaît bien cette expérience. Tu regardes la misère dans le monde, les larmes te viennent aux yeux. Mais que peux-tu faire? Il y a tellement de misère aujourd'hui. Si tu n'y fais pas attention, tu peux te sentir comme Atlas, le personnage mythique qui devait porter le monde entier sur ses épaules. Devant cette situation misérable, devant des tsumanis de religiosité que l'on appelle à tort des réveils, et qui en fait ne sont qu'un grand mensonge, Dieu va éveiller et susciter des désirs en toi. Il dit « On peut y faire quelque chose. Tu n'as pas besoin d'être médecin sans frontières. Tu ne dois pas nécessairement partir en Afrique, bien que ce soit permis. Mais il te demande, as-tu le courage de croire que ce que je fais naître en toi, c'est cela l'essentiel? Voilà le chemin de Dieu, le plan de Dieu. Il y aurait beaucoup de choses à dire à ce rapport. Tant de gens radotent des choses insensées à ce sujet. Il s'agit d'éveiller le désir de Dieu dans les hommes en qui il se complaît. Et ensuite, regardez ce qui en surgit. C'est son plan, et tout cela se passe dans le monde caché, dans l'inaperçu. Oui, qui le croit? Tu veux réaliser le désir, l'attente de Dieu, faire ce qui lui est agréable. Pourquoi? Parce que tu es tellement mu de miséricorde. Si tu es quelque peu humain, tu es miséricordieux. Oui, Dieu est aussi comme ça, et il dit que nous incarnons cette miséricorde à notre manière. Tu ne deviens que miséricorde. Comment trouves-tu cette perspective? Le mot miséricorde a pris chair en toi. La miséricorde prend forme en ton existence humaine. C'est cela. Vivre selon sa volonté. Et maintenant, le reste de la prière, tu dois bien le comprendre, sinon tu passes à côté de la signification. Sur la terre comme dans le ciel. Sur la terre, ta volonté sera accomplie, comme dans le ciel. C'est bien dit, n'est-ce pas? Chaque homme se trouve spirituellement dans le ciel. Mais où? De quel côté? Dans le royaume de la lumière ou dans celui des ténèbres? Chaque homme, et chaque homme qui se met à croire, est transféré des ténèbres à la lumière. C'est sûr et certain. Mais en même temps, tu es aussi sur terre, avec tes deux pieds. Et ce que je trouve si beau, c'est que ce qui est spirituellement en toi, tu peux le révéler sur terre. Dans le ciel, sur terre. Je vais le dire d'une autre façon. Le Christ, l'Esprit, habite en nous sur terre. Et nous habitons en lui dans le ciel. Ainsi, le ciel et la terre sont réunis. Il se trouve aussi une pareille déclaration dans Apocalypse 21, 3. La tente de Dieu est avec les hommes. Dieu habite dans une tente, et cette tente, ce sont les croyants sur terre. Donc, tu peux expliquer la petite phrase « sur la terre comme dans le ciel ». Ainsi, ton désir naît et en devenir dans le ciel et est engendré sur terre. Quand quelque chose naît, tu peux aussi le manifester. Donc, que se passe-t-il? Ton désir est en premier lieu éveillé dans le ciel, dans ton esprit. C'est le désir de Dieu. Et il naît sur terre. D'abord l'invisible, et ensuite le visible. Connaissez-vous l'expression « mettre un enfant au monde » ? C'est beau, n'est-ce pas ? Cela aussi a commencé dans le monde caché. De même, grâce à l'homme, Dieu est en train de mettre ses enfants au monde. C'est merveilleux ce qui est suscité dans l'esprit, dans l'invisible, se développe dans la femme, l'Église, et est ensuite manifesté sur terre. D'ailleurs, un grand secret se doit aussi d'être gardé. Pas de commérage. Si tu ne sais pas garder un secret, Dieu ne t'en confiera pas non plus. Moi, je l'ai constaté. Le secret le plus précieux, c'est l'affirmation de Pierre quand il dit à Jésus, « Tu es le Christ. » Jésus le regarde et lui dit, « Cela, Pierre, tu ne peux pas le savoir par toi-même. » Et il y ajoute avec insistance l'interdiction de l'ébruiter. Matthieu 16, 16. Quand j'entends donc des gens qui se mettent à crier qu'ils sont les fils de Dieu, que la création attend, je me détourne. Ce ne sont pas ceux-là que j'attends. Ce ne sont pas ceux-là que j'attends. Ce ne sont pas les vrais. Jésus dit quelque part, « Sais-tu ce que je dis sur terre, ce que j'entends dans le ciel ?» Jésus est tellement original qu'il répète ce que son Père dit. C'est cela son originalité, parce que le Père est original. Il y a de ces gens qui énoncent une idée comme s'ils l'ont conçue eux-mêmes. Il faudra d'abord avoir écouté le Père. Jésus fait ce qu'il a vu faire le Père. Donc, ce qu'il voit dans le ciel, il le fait sur terre. Et ce qu'il entend dans le ciel, il le dit. Alors, que se passe-t-il sur terre? J'espère que je vais pouvoir l'expliquer clairement. Le visible est une image de l'invisible. C'est bien clair, n'est-ce pas? Tout le monde connaît cette notion. Mais le visible est aussi la conséquence de l'invisible, car l'invisible était premier, et de là est né le visible. Cela se passe dans ton esprit et va se manifester sur terre. Ce que tu vois de tes yeux est un signe. C'est l'ombre d'une réalité qui se trouve plus haut, la réalité de Dieu. Nous appelons cela des signes. Et un signe est toujours un signe de quelque chose, d'une autre réalité. Quand je fais un signe de croix, tout le monde sait bien que cela signifie quelque chose. Donc, qu'est-ce que nous apprenons d'abord? Nous apprenons, par exemple, à donner à quelqu'un du pain spirituel. Tu nourris l'esprit de quelqu'un. C'est son pain quotidien. Une fois appris cela, les signes suivent ensuite par eux-mêmes. Nourrir les gens de pain, par exemple. Le savais-tu? Jésus fit le signe de la multiplication des pains parce que c'était une image d'une réalité plus haute. Ma parole est multipliée, mais l'invisible vient d'abord. Apprenons cela en premier lieu. Quand tu as appris à ouvrir spirituellement les yeux de quelqu'un, afin qu'il puisse voir quelque chose de Dieu, tu pourras un jour, comme signe, rendre la vue à un aveugle. Cela est aussi valable pour des gens qui ont les oreilles bouchées. Quand tu es capable d'ouvrir les oreilles spirituelles, tu pourras plus tard rendre l'ouïe à un sourd. Dans le plein évangile et dans les cercles pentecôtistes, ils ont tous commencé du mauvais côté. S'il y avait un signe, c'était la preuve que Dieu était avec eux. Mais Dieu travaille en sens inverse. Et ce qui est beau, c'est que par cette parole, tu peux donner la vie à un homme qui est spirituellement mort. Et de ceux-là, il y en a beaucoup. C'est cela la résurrection des morts. Parmi tous ces hommes spirituellement morts, tu ressuscites quelqu'un par l'Évangile, car tu as des paroles de vie éternelle. Cette personne les mange et elle va vivre éternellement. Si tu es capable de faire cela, plus tard, tu ressusciteras des hommes de la mort, si tu les trouves importants. Mais il ne s'agit pas en premier lieu de cela. Ce sont des signes, et cela ne réussit pas toujours, car ce n'est pas le but final. Jésus nous a prévenus. Il dit « Viendra la nuit où personne ne saura travailler. » As-tu déjà réfléchi à cela? N'est-ce pas beau de rendre la vie à un homme? Je trouve que c'est ce qu'il y a de plus beau. Nommer son identité, lui donner un nom et lui montrer ensuite qui est Dieu. Nous aimerions bien pouvoir voir Dieu. Jésus dit, « Regarde-moi. » Quelle déclaration! Ensuite, il dit, « Donne-nous un signe. » Et Jésus répond, « Vous avez une fausse idée de Dieu. » Une des plus dures épreuves par laquelle Jésus a dû passer au moment qu'il pendait à la croix, le corps mordu par la fièvre et par la souffrance, c'est l'injure qu'on lui lança. Il a mis toute sa confiance en son Dieu. Eh bien, que son Dieu le sauve, qu'on te lance une injure pareille. Encore maintenant, il y a des gens pieux qui agissent de la même manière. Tu as bien mis ta confiance en Dieu, non? Et les bigots font appel à ton sens de culpabilité. Comme il est alors important de pouvoir discerner les esprits, surtout dans le domaine des soins pastoraux. Où la mort est-elle vaincue? Où? Dans le ciel. La mort spirituelle est vaincue. Plus tu en es conscient, plus tu saisis aussi que la mort terrestre en est une image. La mort est vaincue dans le ciel, dans l'esprit, donc aussi en nous. Ce n'est pas rien. Jésus y a pourvu, car il savait quel impact elle avait sur l'homme. Mort signifie en hébreu que tu es séparé de la vie. Quelqu'un a coupé le lien entre Dieu et l'homme. C'était cela, la mort spirituelle. Car, lorsque Adam et Ève mangèrent de l'arbre, ils ne tombèrent pas morts, non. Ils entrèrent en relation avec un esprit mauvais, et par là aussi avec la mort. Où se passent les plus grands miracles? Les plus grands miracles ont lieu dans le ciel. C'est là qu'ils se passent. C'est un grand miracle que la mort ait vaincu, en sorte que les hommes puissent être délivrés de l'angoisse de la mort. C'est un grand miracle que toi, un homme temporel, tu es devenu un homme éternel. Si cela n'est pas un miracle, alors je n'y comprends plus rien. Tu as reçu de l'Esprit de Dieu. C'est ce qu'il y a de plus précieux. Dieu est esprit et tu as reçu de son esprit. Tu as reçu de son essence. C'est cela, cette conception. Tu n'es plus né dans le péché, tu as reçu cette parole dans l'innocence pure. Quel miracle que tu aies appris à marcher spirituellement. D'abord, en prenant la main de quelqu'un d'autre, et plus tard, de façon autonome. Tu as appris à regarder et à voir. Tu vois beaucoup plus que ce qu'il y a à voir sur terre. Entendre. Tu entends la voix de ton berger. Toutes ces propriétés se développent en toi. Ce que je trouve aussi un grand miracle, c'est l'avenir. Il est déjà présent. On parle des puissances du siècle à venir. Paul en parle. Ce siècle, cette période ou éon, a commencé avec Jésus. Oui, à ce moment-là, Dieu a commencé une nouvelle période de restauration. C'est le siècle à venir et tu y es de plein pied. Tu vis l'avenir ensemble avec lui. C'est vrai qu'il t'arrive certaines choses que tu n'as pas demandées, des choses misérables. Le point est, comment réagis-tu à cela? Comment parviens-tu à tenir le coup? Ou, si tu es très fort, à marcher sur l'eau? Des justes du livre de l'Apocalypse est dit qu'ils se tiennent sur la mer de glace. Les choses leur sont soumises. Si cela n'est pas un miracle, je ne le sais plus. Ce qui est aussi le grand miracle, et maintenant je parle pour moi-même, c'est que je deviens vraiment qui je suis. La semaine dernière, je parlais à une sœur dans l'église, et à ma grande surprise, elle disait, « Je suis une personne heureuse. » Cela m'a donné les larmes aux yeux, parce que je sais tout ce qu'elle et son mari ont déjà dû subir. Et l'épreuve n'est pas encore terminée. Et la voilà heureuse. Je trouve cela un miracle. Devenir celui ou celle que tu es. Là-dessus, il reste encore beaucoup de choses à dire. Que tu ne joues pas un rôle, car celui qui joue un rôle dénie son être profond. Que tu ne te comportes pas autrement à l'église qu'à la maison. Jouer un rôle est dangereux, de même que de se laisser pousser à jouer un certain rôle parce qu'on l'attend de toi, parce qu'on t'y confirme. On y est enfermé, et on ne parvient plus à en sortir. Regardez, Mère Thérèse, à la fin de sa vie, ce fut la lutte intérieure. Avec Jésus aussi, on a plusieurs fois essayé de lui faire jouer le rôle qu'on attendait de lui. Devenir celui que tu es vraiment, c'est porter ton nouveau nom. Il convient à ton essence. Porte ce nouveau nom, la caractéristique de ton essence, comme un diadème sur ton front. Et ose suivre Jésus, dirais-je. Lui, avec le diadème, de qui il est réellement, et non de ce que les gens ont fait de lui. Et toi, avec ton propre diadème. Et ces deux se rencontrent. Je trouve cela un des miracles les plus émouvants qui puissent se produire. Le plus grand et le plus beau miracle, aussi pour moi, savez-vous. Cela me fait penser à la rencontre entre Jésus et Marie-Madeleine après la résurrection. C'est difficile d'exprimer ce qu'ils ont dû ressentir. Ils s'aimaient tellement. Elle fait une erreur. Elle pense que c'est le jardinier. Et pourquoi l'évangéliste Jean raconte-t-il 50 ans plus tard encore cette erreur de Marie-Madeleine? Parce que c'est une si belle erreur. Jardinier, le plus ancien métier du monde. Adam ne fut-il pas jardinier? elle pensait que c'était le jardinier, et Jésus aurait pu lui répondre « Tu as raison, je suis le jardinier du paradis de Dieu, le dernier Adam. » Mais bon, le plus beau miracle aussi pour moi, celui qui continue à m'étonner, à m'émerveiller et dont je jouis aussi, c'est que quelqu'un me trouve son bien-aimé. Au début, il m'était impossible de saisir cela, de pouvoir croire que quelqu'un pourrait m'aimer. Cela était dû à l'image que j'avais de moi-même. Mais bon, tu es l'enfant bien-aimé de Dieu. Et dit Paul, mon amour reste. Il est si stable qu'il peut endurer quelques chocs. Si tu joues encore un rôle de chrétien, ou même plusieurs rôles, que sais-je, ou si tu veux jouer le rôle principal, dans ce cas, tu ne connais pas ton Père. Je dirais, descends de l'estrade et entre dans la réalité de Jésus-Christ qui fait de toi qui tu es réellement. Et tout cela, et plus encore, nous le devons à Jésus, l'agneau de Dieu, pas vrai? Est-ce clair maintenant? Que ta volonté soit faite dans l'invisible, dans l'esprit et de même sur la terre. Il s'agit toujours de choses vivantes. Occupe-toi donc des trésors invisibles. Amen.